maintenant? Quand maintenant? Qui maintenant? Sans me le demander, dire je, sans le penser. Appelez ça des questions, des hypothèses. Aller de l'avant, appelez ça aller, appelez ça de l'avant.
On m'appelle Marius, et ça m'est tout à fait indifférent. Fallait bien s'appeler. Peut-être que c'était hier. Je me souviens pas.
Le syndrome de la double fuite touche les deux sexes à part égale avec une moyenne d'âge de 32 ans, et des extrêmes de 9 et 62 ans.
Et 62 ans, ça fait un bon père pour un 32. Et 9, ça ferait un petit-fils. J'ai forcément des ancêtres quelque part. Mais c'est encore quelque chose qu'on m'a piqué, ça. Ou plutôt non. Mais c'est presque pareil. Il y a quelque chose qui m'empêche de découvrir qui je suis et d'où je viens.
La physiopathologie n'a pas encore été élucidée, mais plusieurs éléments plaident pour le rôle de cytokines, interleukine 2, de leucotriène ou encore de l'apoptose des cellules endothéliales dans le déclenchement de l'hyperperméabilité capillaire.
Ce qui pourrait expliquer pas mal de choses, mais à la guerre comme à la guerre, et je compte bien me sortir de cette torpeur. Faut lutter, faut tailler en pièces et faut remonter à la surface, faut planter ses ongles et ses dents dans la matière jusqu'à percer à jour, faut s'en sortir et pour ça c'est la guerre. La guerre du sang en transfusion, la guerre de la cervelle en boîte et des os en poudre. C'est la guerre de ceux qui veulent exister.
Cliniquement, la crise se déroule en quatre phases. La phase initiale correspond à la première fuite capillaire. Elle se manifeste par des douleurs abdominales, des nausées, des œdèmes généralisés et une hypotension artérielle pouvant aller jusqu'au collapsus. La deuxième phase correspond à la seconde fuite capillaire. Une alopecia areata évoluant vers la pelade universelle, c'est-à-dire la perte des cheveux et poils sur toute la surface du corps. La troisième phase correspond au retour massif du liquide dans le secteur intravasculaire et se caractérise par une polyurie avec, dans la majorité des cas, un œdème pulmonaire principalement lié aux apports hydriques de la phase initiale. Un grand nombre de phénomènes psychiques accompagnent ces trois premières phases avec, notamment et presque toujours, une fuite des idées et une dépersonnalisation particulière et pathognomonique, nommé effet Marius, se référer à la psychopathologie du SDF.
Avec ou sans fuite, de toute façon, faut bien s'appeler. Et comme personne s'est dérangé pour m'en donner un vrai nom, on m'en a collé un d'office, un prénom à plat, sur le front plat de l'individu lambda qui sonne creux, Marius.
La quatrième et dernière phase, appelée aussi stade du bronze, est moins bien décrite que les précédentes et conduit presque toujours à la mort du sujet. Les épanchements se généralisent et l'on observe une disparition progressive du système cardiovasculaire par dissolution. La couche cornée de l'épiderme durcit et s'épaissit considérablement, dans des proportions bien supérieures à l'hyperkératose. Puis la peau prend un teint hâlé, la totalité du derme entamant un processus de réorganisation moléculaire incompris dans l'état actuel de la recherche. Les phénomènes d'apoptose, mort cellulaire programmée, se généralisent à tous les tissus sous-cutanés sans exception. Cerveau, muscles, nerfs, viscères, os et ligaments sont atteints par le processus de liquéfaction finale. À ce stade, la vie psychique du patient est considérée comme nulle et les morts cardiaques et encéphaliques sont déclarées. Pourtant, le processus terminal se poursuit et n'a jusque-là jamais pu être enrayé, excluant toute possibilité de récupération organique. Un épais et solide cortex corporel se constitue, pouvant atteindre plusieurs centimètres d'épaisseur à certains endroits du corps. Les remaniements moléculaires cessent lorsque la composition de ce cortex corporel est devenue identique à celle du bronze. La partie liquide du corps de Marius, c'est-à-dire celle située sous le cortex de bronze et correspondant à 65% de la masse totale, n'est alors plus faite que d'eau.
C'est-à-dire quelque chose d'incolore et d'insipide, du pur impersonnel, du générique, quoi. Un médicament générique, c'est un médicament parfaitement on. On en prend un, on l'avale, on est guéri. Comme les millions d'autres qui ont avalé le même médicament en même temps pour le même prix dans la même boîte avec le même goût n'importe où sur la planète. Le médicament générique, ça a le goût du générique. Complètement sans goût. Aucune science de l'harmonie, on convoque aucune chimie des saveurs à l'élaboration. On fait pas dans la dentelle, on n'est pas là pour faire de l'art. On fourre la molécule dans la même pâte que pour n'importe quel autre médicament générique, et à peine sorti de l'usine, c'est dans la bouche. Marius, c'est un prénom parfaitement on. Un prénom générique. Globalement, on m'appelle Marius. Et globalement, ça marche. Enfin, ça marchait. Jusqu'à hier, ça marchait.
Aucun traitement thérapeutique n'est connu à ce jour. La seule méthode connue pour maintenir les malades en survie consiste à retarder le plus possible le déclenchement de la phase 4 par le biais d'une activité minimale, tant physique que psychique, en milieu aseptisé et médicalisé niveau 5.
Eh oui, on est bien obligé de s'appeler. Alors j'ai accepté le prénom générique parce qu'on peut pas y échapper. Mais j'ai pas l'intention de me laisser générer de fond en comble. Et je compte bien commencer par trouver mon vrai nom, le nom qui fera que je sortirai de toute cette merde en générique. Et dès les premiers pas, j'ai plusieurs indices qui me font croire que je suis sur une piste. Si vous voulez bien me suivre, on sera toujours moins seul. Le tout, c'est de pas crever en route. Parce que si vous voulez mon avis, on n'est pas très en forme.